pour commencer, une phrase de notre cher Jean Douchet, qui est mort il n'y a pas longtemps, un critique de cinéma. Alors, qu'est-ce que nous dit Jean Douchet ? Passionné, je crois qu'on a besoin d'en savoir toujours plus pour réellement aimer. On ne peut pas apprécier quelque chose si on n'a pas essayé d'abord de comprendre cette chose. Et ensuite, en tentant de la comprendre, de découvrir qu'elle est encore plus riche, qu'elle avait encore plus de raisons d'être aimée. Quête de cinéma, on est en février 2020 à Marseille sur les ondes de Radio Galère 88.4. En février, il fait une température d'été. Voilà, on est avec Pauline Laplace, Waib Mortada, pour une émission d'une heure et demie.
C'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet et les vins vite, y portaient une marmite.
Oui, ça parle de la rue des bons enfants. Laisse couler.
Le brigadier, le commissaire, mais les autres poulets vulgaires partent en fragments et partent qu'on retrouve sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. Les tenements les profonds, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Pour abréger les forfaits, la famille capitaliste est heureusement bien anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, tout le pouvoir il le nie. Encore quelques gros efforts, et disons donc qu'on se fait fort de régler radicalement.
La rue des bons enfants, la rue des bons enfants. Bon, excusez-nous pour les tocs et tics, on est sur Radio Galère, il ne faut pas l'oublier.
Donnons la parole à Pauline.
Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Un peu intimidée.
Un peu intimidée, nouvellement arrivée sur Marseille.
Oui.
Ouais, alors Marseille, ça donne quoi ?
Il fait très chaud pour un mois de février.
Eh oui. Marseille est bouillante. Alors, Pauline. Pauline qui fait du cinéma depuis bientôt plus de 10 ans.
C'est ça.
Voilà. Et ce soir, on est là pour parler entre autres de ton dernier film et puis aussi de tout ton travail de cinéaste. Ton dernier film que tu as fini cette année.
Ouais, l'an dernier.
L'an dernier, voilà.
Je pense, ouais.
Ça, de 2019, alors.
C'est ça.
Et qui s'appelle...
Un tout petit pays.
Un tout petit pays. Quel joli nom.
Et quel magnifique pays, surtout. Puisque Pauline, c'était une grande surprise de découvrir ce travail. Et on aimerait bien d'abord que tu nous présentes, tu te présentes à nos auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute. Pauline Laplace est au studio de Galère, en quête de
cinéma.
De cinéma. Auteur indépendant. Indépendants. Elle est où l'indépendance dans le cinéma, Pauline ? Comment t'as réussi à séduire autant le fond cette capitale culturelle Lyon, autant le CNC pour réaliser ce tout petit pays.
Ah, l'indépendance, parce que j'ai eu du fric pour faire ce film. j'ai écrit des dossiers. Je les ai envoyés et ils ont donné de l'argent. Voilà.
Avant d'envoyer les dossiers.
Mais j'ai tourné d'abord, ouais. Il faut faire comme si on n'avait pas tourné. Et on vendait une histoire de comme si on allait tourner.
Et c'était important. Pour toi, c'était nécessaire de tourner avant d'écrire, ouais.
Ah c'est, ouais.
Cette histoire de film, c'était ça pouvait pas se faire autrement.
Je pense qu'on peut pas écrire sans avoir filmé. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à écrire sans avoir filmé d'abord. Ça, c'est clair. Mm. De pouvoir voir comment on se place avec la caméra, comment on regarde. Avant de. Et après, les mots, c'est de la littérature autour de ça.
De la forme.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est autre chose presque.
Ouais.
C'est presque.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, t'as tourné. Parce que tu l'as tourné sur combien de temps ce film ?
Sur 5 ans.
5 ans. D'accord, ouais. Et donc, t'as écrit au bout de. T'as estimé à un moment que t'avais suffisamment tourné pour pouvoir écrire.
Au bout de 3 ans.
D'accord.
Quelque chose comme ça, ouais.
Et là, t'as arrêté de tourner alors quand tu es passé.
Non, je pense que je continuais un peu. Peut-être que j'ai fait une petite pause et j'ai tourné après aussi, quoi. Ça, c'était un moment où, où j'avais commencé à. Enfin, d'abord il y a le moment de se dire je vais tourner, je vais ramener une caméra là-bas, et puis après de tourner, et puis après se dire mince, je sais plus ce que je veux dire, il faut que je réfléchisse. Donc là, je me pose, j'écris. Et puis ensuite, avec l'écriture, c'est autre chose qui se passe, c'est un recul. Et là, j'ai fini de tourner après, quoi.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs qui n'ont pas vu le film, dont on espère qu'ils le verront? Il sera sûrement projeté.
Ça commence par un brouillard de nuit, d'un lever de jour nocturne, un vieux monsieur au regard perdu et un détour. Une vue d'en haut, un kiosque. Des klaxons, le vieux installe l'affiche du jour et on y lit couche d'ozone, couche de con. Des idées au lecteur, Libé à la une et une première interview. C'est très délicat. Patricio commence à. Dans cette première rencontre avec Pauline, elle nous racontait sa vie. Il était chef de train, contrôleur, aiguilleur. C'était les années 75. Et il dit à Pauline, « Oh là là, c'est parce que ça, c'était la castagne avec les flics, l'art de la guerre. Paris sera toujours Paris. » Pauline, tu es parisienne ?
Non.
D'origine, tu viens d'où ?
Je suis des Hautes-Pyrénées.
Des Hautes-Pyrénées.
Mais elle a passé un petit moment sur Paris.
8 ans.
Quand même ?
Ouais.
À la Fémis, à l'école de cinéma.
5 ans à Paris et 3 ans à Aubervilliers.
Voilà, dans la banlieue parisienne.
Donc tu as fait l'école, l'IDEC, l'ancienne IDEC, la Fémis.
Ouais.
Tu peux nous raconter un petit peu ce passage, comment ça a été reconverti, pourquoi l'IDEC est passé Fémis?
Je ne sais pas.
On va parler de tout petit pays qui nous concerne avec Pauline, son documentaire 57 minutes, fin de production donc 2019, on peut dire ça.
Ouais.
Début des tournages 2011, c'est bien ça?
Ouais.
Je pense hein.
2012
donc ouais. Lyon qui est promu capitale de la culture.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Je pense plutôt après.
C'est après, oui.
Voilà, production l'argent.
Oui.
Sans argent, bien sûr. Les Don Quichotte, on aimerait bien savoir qui c'est, Don Quichotte Film. Et puis financement de la SCAM, Lyon Capital Télé et du CNC et la SACEM Île-de-France. Sur la plateforme Vimeo, le film a été visionné 319 fois. Voilà. C'est. Voilà, j'espère que pas tout, notre Patrice ne sera pas élu dès demain chef de rébellion à Paris.
Ça risque pas, non ?
Donc voilà.
Et... Patrice, Patricio, qui, moi je pense que vous l'avez compris, hein, après peut-être que vous ne l'avez pas encore compris, mais on va tenter, on aime bien tourner autour du pot, ou au bout d'un moment c'est le pot qui tourne autour de nous. Mais Patricio, donc voilà, donc le film, Un tout petit endroit, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà.
Donc Patricio. Le pays.
Voilà. Hein ? Patricio, qui est le personnage principal du film, et qui en fait tient un kiosque à Paris. Un kiosque avec une grande place qui est donnée aux revues, on peut dire, militantes, aux revues politiques, aux revues anarchiques, parce que Patricio se donne à voir et aussi pense, est habité de la pensée anarchiste. On peut dire ça comme ça, Pauline, si je...
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais. Voilà, et que tout ce qui est intéressant dans ce film, tout comme de comment moi je l'ai vécu, et on va essayer de vous en parler, mais quand même de vous donner envie de le voir, c'est ce dialogue entre Pauline et Patricio, parce que dans ce film, Pauline est à la caméra, elle est seule sur le tournage principalement, et c'est un dialogue entre deux personnes avec des histoires différentes sur des questions du présent principalement, mais qui convoque aussi le passé, quoi. C'est un film qui parle beaucoup de politique, d'histoire de politique, qui a été tournée, qui s'est terminée juste avant les élections, c'est ça ?
Mais juste après, du coup.
Oui, juste après, voilà. Ouais. Ouais, qui s'est terminée juste après.
Élections présidentielles, oui.
Voilà. Et donc, c'est une sorte de huis clos. Et comment est né ce désir ? C'est une rencontre, c'est...
Ouais, moi j'habitais à côté du kiosque, au début où j'étais à Paris, et puis il y avait un truc dans ce kiosque-là où on pouvait s'arrêter, passer du temps à regarder les gens qui venaient acheter les journaux. Donc forcément, en fait, les gens qui lisent encore la presse papier, c'est plutôt des vieux, ou des gens qui viennent dans le kiosque pour pas acheter de journaux, mais pour parler, quoi. Et je trouvais ça chouette parce que on arrive dans une grande ville. Je pensais qu'il y aurait plus d'endroits comme ça où on peut s'arrêter dans la rue. Et il n'y en avait pas tant que ça. Et là, c'était juste à côté. Et du coup, je me suis arrêtée un peu.
Donc tu l'as rencontré en y passant, tout simplement, quoi.
Ouais, il est juste à côté du métro. Du coup, on y passe... avant de prendre le métro, quoi.
C'est dans la presqu'île.
C'est ça.
Alors, à quoi ça ressemble, la presqu'île à Paris ?
La presqu'île du kiosque ?
Oui, le kiosque ou c'est le plan de situation du kiosque qui s'appelle la presqu'île ?
La presqu'île, c'est comme il dit Patricio, il dit... moi, je trouvais qu'il était dans une île. Et lui, il dit non, je suis dans une presqu'île parce qu'il y a un pont. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent venir le voir et repartir. Qu'il n'est pas complètement isolé, même s'il est dans une sorte de bulle un peu aussi.
Ah, d'accord. Intéressant. Le presqu'île. Le presqu'île de Patricio.
Oui, il dit qu'il est dans le plan de situation de Paris, que ce kiosque se trouve comme à un point de jonction, un point de médiation entre le cœur de ville et quelques îles un peu éparpillées à côté, tout autour. Et il dit aussi que si il mettait quelques millions de presqu'îles comme ça, ce serait bientôt une fédération. Et il rêve toujours à fédérer d'autres kiosques à son kiosque pour fabriquer je sais pas quelle nouvelle utopie de lutte et préparer la nouvelle révolution. Et la première scène démarre avec cette confrontation directe entre Pauline, qui écoute bien le monsieur Patou, puisqu'il y a quelques vieux monsieur, quelques vieilles dames qui l'appellent le Patou.
C'est
vrai, hein?
C'est toi qui l'appelles comme ça.
C'est moi qui l'appelle comme ça. Du coup, en se rappelant de sa propre histoire des luttes, Patricio passe à l'offensive et il dit, mais Apolline, mais vous, aujourd'hui, votre génération, mais vous êtes dans une révolution molle. Et là, ça énerve Pauline qui réagit, qui lui dit, mais arrête de nous insulter, en gros, hein.
Oui. Je crois qu'il y a un extrait là-dessus. Là.
Ah, bah, on va écouter l'extrait, alors. C'est lequel, c'est le combien, il s'appelle comment?
Je sais pas, là, il s'appelle Tous Radio sur votre logiciel.
Mince. Tu l'as pas. Mais oui, oui, mais ça n'arrive pas tout au début du film, ça, c'est...
Ouais, c'est au bout d'un moment.
Ouais, c'est au bout
d'un... C'est au milieu, ouais.
Oui, c'est à peu près au milieu
du
film.
Le conflit, il est au milieu, ouais, de cette espèce de... Mais peut-être qu'il y avait ça, ouais, j'avais envie de... Hormis le lieu qui me plaisait, il y avait ce truc de se dire qu'est-ce que c'est être anarchiste de la fédération anarchiste et qu'il affiche cette identité et qu'on n'est pas du tout, ça c'est clair, de la même génération. Il est arrivé au bout de son boulot, il est arrivé et il a ce truc très... je sais pas, de ces personnes qui ont vécu les années 70 et qui ont cru à un moment donné, il dit ça au départ, on pensait qu'on allait changer le monde. Il a une déception et du coup j'avais envie de voir ce que j'avais à apprendre encore d'une personne comme ça et ce sur quoi j'étais pas d'accord. Entre autres, là, je sais pas.
T'avais envie d'une sorte de confrontation, parce que c'est un peu ça l'enjeu
Ouais.
Tout le film, on a beaucoup. Moi, m'est revenue fréquemment l'image de. Comme s'il y avait un ring dans ce kiosque et qu'il y avait toi et Patricio comme protagonisme, n'étant pas dans les mêmes catégories.
Oui, oui, c'est clair. Il y a beaucoup d'autres gens, mais fil rouge, on va dire, c'est cette espèce d'histoire de transmission, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on rejette de nos pères.
Et ça, c'était très clair pour toi dès le départ, dans le choix de te mettre à cet endroit-là, ou finalement c'est quelque chose qui s'est découvert au fur et à mesure
Ouais, au fur et à mesure, c'est clair. Au début, au tout début, je pense qu'il y avait une espèce de truc de me dire, ah ben si je me place ici, je vais pouvoir filmer plein de gens.
Ouais.
Et faire une espèce de galerie de portraits de Paris, mais depuis l'intérieur du kiosque. Et puis en fait au bout d'un moment je me suis positionnée, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je fais là, il y a plein d'endroits où je pourrais me poser et filmer Paris. Et puis là je suis à côté de Patricio qui a 62 ans et qui s'affiche comme anarchiste. Et du coup oui, c'est clair qu'il y avait cette histoire de transmission, quoi. Qu'est-ce que
tu convoquais, quoi.
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que tu...
qu'est-ce qui m'a... qui de la part de... Enfin, qu'est-ce qui dans cet héritage-là, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je rejette, peut-être.
D'accord. Mais ce que j'ai trouvé intriguant, c'est que... Moi, là, en t'entendant parler, c'est que tu parles de questions de sorte d'une confrontation avec la question de l'héritage, entre guillemets, sachant que c'est très réducteur par rapport à tout ce que déploie le film. Mais il y a aussi sur la question de la forme qui a été intrigante pour moi, parce que c'est tu prends le parti pris de faire un geste de cinéma qui est de plus en plus rare aussi dans le cinéma, on va dire, contemporain et indépendant, RSA, ou qui est ce cinéma direct qui aurait plutôt tendance à lui aussi être daté, quoi.
Ouais.
Tu vois, il y a ces deux choses que tu... C'est comme si tu te confrontais à la fois à ce personnage dans son histoire, et qu'est-ce qui en reste, et puis aussi à la question du cinéma. Qu'est-ce qui en reste de ce qu'a été le cinéma documentaire dans le moment phare de son histoire, quoi.
Ouais. Le choix est vraiment délicat et aussi important de se planter comme ça en plan fixe, presque, enfin, parce qu'on est dans un seul endroit, on est à Paris quand même, hein, où ça circule dans tous les sens, hein. Il y a des grands boulevards, des grandes artères, il y a une agitation incroyable, et on se retrouve en plein périphérie du cœur de la ville, et on est dans un endroit presque, je dirais, stratégique, où d'où l'intérêt de cette, et ça correspond bien, on est presque dans une enquête, on est dans une enquête menée par un cinéaste qui prend, qui fait vraiment des choix bien, bien clairs, à se planter dans un endroit et à ne pas en démordre. Elle lâche pas le personnage et elle lâche pas ses clients. Et elle les filme avec une grande délicatesse. Autant son personnage qu'elle le protège, et il sait aussi lui donner toute sa protection. Mais en même temps, on voit tout le décor. On n'a pas besoin de se déplacer beaucoup. On a juste quelques mouvements, des petits mouvements. Et on est vraiment dans le plan fixe. Moi, j'aimerais bien, si tu le vois, cette piste, Lolo, la confrontation qu'il y a eu avec Tarek. Quand il voit l'affiche, ni Dieu ni maître. Tarek, d'ailleurs, c'est le titre de la piste. Tarek dans les... Et on écoute ça avec nos auditeurs. Tarek, d'ailleurs, c'est le titre de la piste. Tarek dans les... Et on écoute ça avec nos auditeurs.
Oui, je suis anarchiste.
Anarchiste?
Oui.
Waouh!
Depuis longtemps.
Hein. C'est vrai?
Ah oui, oui.
Il n'y a pas eu contradiction là-dedans, quoi, d'être anarchiste et de vendre tout ça?
Non.
C'est vrai?
Je vends des conneries à des cons, mais ça me permet de rencontrer des gens gentils.
Je vois beaucoup quand même de merde.
Hein. Tout le monde, on vit tout dans le système. Personne n'est hors du système.
Eh bien, monsieur, moi, j'ai encore... Il me reste un peu de foi, quoi. Je vendrai pas Paris Match. Je le vendrai pas. Je le donnerai à personne, quoi. Je le souhaiterai à personne.
Il y a des nanas qui me disent, oui, je sais, quand elles viennent, elles le disent, elles me disent, je sais que vous me regardez, j'achète que des conneries. Mais moi, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et après, elles disent, bon, ben, je vais prendre le monde diplomatique, allez, pour vous faire plaisir. C'est mignon.
Elles se sentent jugées.
Ouais, mais j'évite maintenant de porter trop de jugements sur ce que les gens lisent, parce que c'est pas que j'ai peur de perdre des clients, parce qu'il y a longtemps que je les aurais perdus, mais tout simplement parce que finalement ça leur fait de la peine, ça sert à rien, je pense, de faire de la peine aux gens. Ils ont déjà assez de malheur comme ça.
Bon, en tous les cas, moi, si j'ai une idée, peut-être c'est la seule, c'est que moi, je trouve que c'est complètement impossible de vivre à une telle échelle, celle d'aujourd'hui, quoi, celle d'un pays, celle de vivre à une échelle comme ça où il y a 66 millions de personnes. Mais forcément, t'es un mouton. T'es dedans, t'es... Et du coup, c'est maintenir une échelle un peu plus petite et ne jamais prendre des drapeaux que je ne comprends pas. Si on n'a ni Dieu ni maître, ben, si on bloque, que ça soit réellement une devise, quoi, que ça soit.
T'as raison, mais c'est pas facile à vivre.
Ben oui, bien sûr. C'est très difficile.
Moi, j'ai été comme ça pendant une époque. J'étais jeune. Je ne me chauffais pas, j'en avais rien à foutre. Je changeais d'endroit, j'errais, quoi. Je travaillais de temps en temps quand j'avais... Je regrette un peu cette époque parce que j'étais vraiment libre, finalement. Je rencontrais des gens, c'était sympathique. Mais j'avais le feu de la jeunesse aussi. C'est vrai que j'étais pas malade, j'étais très solide, très costaud. Finalement, il aurait mieux valu mourir jeune. Pour ne pas souffrir de vouloir un certain confort.
Et la jeunesse, ça s'arrête quand?
La jeunesse, elle s'arrête...
Quand on pose un genou?
Non. La jeunesse, c'est tant qu'on vit, finalement, et qu'on a envie de continuer à s'améliorer. Voilà. Elle s'arrête jamais, finalement.
Tant qu'on est curieux, on est jeune.
Oui, je pense. Écoute, un jour, Cervantes, c'est dans Don Quichotte, libère des esclaves. Enfin, des prisonniers. Il disperse les gardiens, je ne sais pas si tu l'as lu. Et les prisonniers, il leur enlève leur chaîne, il leur dit « Vous êtes libres !» Et puis bon, il s'en va, il est tout content qu'ils ne sachent pas ça. Et puis les mecs le rattrapent, ils lui disent « Oui, on est libres, mais qui c'est qui va nous donner à manger ?»« Salaud, avant les gardiens nous donnaient à manger, ils s'occupaient de nous, ils commencent à lui jeter des pierres, il est obligé de se sauver !» Tu sais, la liberté, des fois, elle arrive trop tôt. Ouais. Ça dépend comment la maturité qu'on peut avoir.
Ouais. Eh bien, un jour, moi, je vais passer pour brûler tout ça.
Bah, ils ont déjà voulu me brûler, tout ça.
Mais pas parce que je suis musulman ou quoi que ce soit, juste pour vous aider à vous libérer.
Je suis très libre, mais il faut bien gagner sa vie. Tout le monde ne peut pas être artiste.
Tout le monde ne peut pas être artiste. Ben dis donc,
pour gagner sa vie.
Quelle parole.
Ouais, pour gagner sa vie, ouais.
Donc, est-ce que tu es encore jeune, Pauline?
Bah, je suis vachement plus jeune que vous, déjà.
Voilà. Ah là là. Bon, mais c'est dur comme parole, un peu, mais à la fois, bon. C'est un bel échange, quoi. T'as eu la...
Qu'est-ce qui est dur?
Ben, c'est dur de... Je sais pas, c'est dur, mais dur de cette question de... Parce que pour moi, ce que ça convoque, c'est qu'avec le temps qui passe, avec... ben, il y a des choses qu'on lâche un peu, et c'est un peu dur. Mais c'est pas... Je sais pas si le mot dur est très approprié, mais dans ce que j'entends de ce que dit Patricio, et à des endroits que je reconnais, cette question où il dit que oui, tu as plus la même énergie et la même folie qu'avant, quoi. Mais ça n'empêche pas que la vie est pas moins belle. C'est pas pareil, quoi.
Ouais, tout un temps, le fait que c'est à cause de l'âge qu'on lâche.
Ben ouais, il le dit. Mais moi, que j'entends, ce que je retiens, c'est bah oui, avant je pouvais squatter, avant j'avais ça, je m'en foutais de si peu. Il parle de son corps. Moi, je retiens ça. Tu retiens quoi, toi, alors, qui a...
Moi, là, je voyais aussi une espèce de... Parce que finalement, c'est vrai qu'il convoque l'âge, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc qui a basculé dans les façons d'être politique de notre génération, où il faut que tout soit pur, presque. Alors que peut-être que lui, il vient d'une génération où on peut bosser à l'usine ou faire un travail qui n'est pas... comment dire, faire un travail pour bouffer, quoi, et à côté ça empêche pas de revendiquer des choses.
Oui, donc ça y convoque une autre époque,
une époque aussi où, mais que je sais, j'ai pas, je tranche pas pour
est-ce
moi.
Que c'était pas parce que c'était aussi une époque où la question du travail était d'un autre ordre dans son rapport aux politiques aussi, ou qui était...
Mais la réalisation dans le travail, je pense que c'était un peu loin de pas mal de gens, quoi, et que à la fois la réalisation dans le travail qu'on cherche, elle est... c'est peut-être une émancipation, c'est peut-être aussi une grosse entube, parfois. Tu vois, je pense que Patricio, tout en vendant Gala, il pouvait revendiquer d'avoir envie de vivre notre monde. Et que notre génération, elle cherche à tout aligner. Parce que t'es pas légitime si tu bosses pour des connards à vouloir un autre monde. Alors que peut-être que si. Peut-être que si, carrément. Et moi, je trouve que c'est dur des deux côtés. Et c'est ça que j'aime bien dans cette scène.
Ouais,
c'est que y a Tarek qui incarne, mais aussi parce que j'ai demandé, tu vois, qui incarne un truc de dire... t'as des contradictions, donc tu peux pas tenir si t'as des contradictions. D'ailleurs, il dit un truc à un moment, il dit « Moi, je prendrai pas des drapeaux que je comprends pas. » Mais Patricio, il a passé sa vie à essayer de comprendre ce drapeau, donc peut-être qu'il le comprend quand même un peu. Et de l'autre côté, l'autre, il dit « Ah ouais, mais en fait, je peux pas être complètement pure. C'est pas possible. » Donc voilà, ouais, moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et je pense que les deux, justement, et ça, c'est le deuxième pan un peu du conflit générationnel, ça mène un peu, quoi. Je pense que, comme ça, je me dis que c'est une génération qui a lancé quelque chose, mais qui a oublié aussi de réfléchir à comment ils se positionnaient dans la société à une échelle plus intime et plus individuelle. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Si, ouais.
Et que peut-être que nous, des fois, il y a un espèce de truc très intime, individuel, qui oublie de dire qu'on est... dans une société, je sais pas.
Mais ça serait de l'ordre alors comme s'il y avait quelque chose dans ce. Tu disais tout à l'heure, tu voulais filmer Patricio un peu pour voir un peu ce que tu pouvais découvrir et apprendre. Mais j'ai l'impression aussi, comme t'en parles, que c'est aussi comme si c'était une forme de voir quelles étaient les possibles de réconcilier des générations. Ça. J'ai aussi l'impression.
En tout cas, que ça coupe pas.
Oui, de relier.
Ça, c'est pas que... Ouais, c'est clair. Réconcilier, j'en sais rien, parce que je pense qu'il y a des... c'est normal. Il faut se détacher. Et bah faire oui, autre chose, conflits. Quoi. Et puis que les conflits sont complètement légitimes, quoi. Après, du coup, de se réécouter, peut-être un peu, d'échanger un peu.
Ouais.
Je pense que ça, c'est possible. Eux, ils ont à apprendre de nous, mais ils s'en foutent, ils sont tout près du gouffre. Et nous, on peut essayer de grappiller deux, trois trucs encore
par exemple, avant qu'ils s'en aillent. À quoi tu penses quand tu dis.
Oh, je sais pas, là, c'est trop. Un des trucs aussi que je me suis dit en le filmant, c'est que je pense que c'est pas dans le film. Après, c'est marrant parce que vous me faites parler du film. Moi, c'est hyper dur de parler du film. Mais comme ça, en filmant, je pense pas que c'est très présent quand on le voit comme ça en tant que spectateur. J'avais l'impression que un des trucs que j'ai appris, c'est que par exemple les discours de Patricio, la parole de discours politique par rapport à sa façon d'être, mais du coup ça c'est mon prisme justement de jeune femme aujourd'hui, enfin en tout cas il y a 5 ans quoi, et ben c'était beaucoup moins fort pour moi. Par exemple, je trouve que son anarchisme, il est beau dans le fait qu'il sert des cafés dans son kiosque et que tu peux venir sans acheter un journal. Pas dans les discours qu'il fait, forcément, quoi. Et que là, c'est chouette parce que les gens qui venaient dans son kiosque, ils étaient vraiment la bienvenue et qu'il acceptait tout le monde, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et que du coup, là-dedans, il appliquait réellement quelque chose de cette idéologie qu'il défendait. Beaucoup plus que quand il faisait des grands discours. Là je dis ça, je parle de lui au passé, c'est horrible, il est pas mort, il est juste, il bosse plus dans son kiosque. Mais
non, puis on parle de...
Là par exemple, je me suis dit, ah ouais putain, il y a la parole et l'action. C'est un film hyper bavard, ça parle tout le temps, mais justement... lui, sa manière d'être, elle est très accueillante, il est très humain. Il a une humanité qui est débordante, quoi, et ça m'a touché. Ça, c'est un truc que j'ai appris, par exemple, de me dire, ah tiens, je pense que c'est les années 70, on retient plein de discours, les mecs parlent, et moi aussi je parle, mais en fait il y a ce que les gens y sont, et je sais pas là ce que je dis, c'est très
mais quand tu
je justement... me réentends parler, c'est
ah bah oui, on a dit tout. Mais quand tu justement cette question de discours, parce que oui, comme tu dis, c'est un film qui est beaucoup dont une des grosses bases est sur la question de la parole. Ça a été à quoi on est confronté quand on filme la parole, justement? Est-ce que on se trouve confronté aussi à cette question de filmer la parole, filmer un discours et une circulation, ou comment t'as éprouvé ça, toi, en tant que filmeuse?
Déjà très très personnellement, je suis hyper bavarde et c'est trop bien de fermer sa gueule et de filmer des gens qui parlent. Tu vois, ça permet de prendre un peu de recul et de réinterroger ce que ça veut dire la parole dans la vie, quoi. Ça, c'est chouette. Et au tout début, je crois que j'avais même envie de faire. J'avais envie de faire un. Je pensais que ça se passerait que pendant les élections, en fait, ce film. Et que tout se cristalliserait autour de ça. Alors bon, déjà, il y a ce truc qui tombe de se dire, ah, putain, c'est il y a vachement de lieux communs. Et quand les gens, je déteste cette expression, mais quand on parle politique comme ça, surtout autour d'un truc comme les élections, c'est chiant, en fait. Du coup, après, il y avait ce truc d'essayer de capter dans la parole, dans les discours et dans les idées échangées entre Patricio et d'autres gens et de Patricio, quelque chose de sensible derrière le discours politique. Enfin, je pense que ça, c'est Morgane qui a fait la plus grosse partie du montage, qui était à fond là-dessus, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils parlent quand est-ce qu'ils sont vraiment eux. Et même derrière le discours, quand est-ce qu'on sent quelque chose de sensible, et pas que du discours, ou quand est-ce que les gens se cachent derrière du discours pour faire disparaître leur sensibilité, quoi.
Et ça, tu dis Morgane, c'est qui est la personne qui a fait le montage. Ouais. Elle arrivait à le percevoir comme mode de sélection. Mais toi, par exemple, quand tu étais au cadre, est-ce que t'arrivais de temps en temps à
bien sûr,
ça
je pense qu'au fur et à mesure, je filmais de plus en plus ça. Ouais. En tout cas, ce qui est clair, c'est que au dérush, enfin. J'étais juste dans ma façon de cadrer que quand il y avait ça qui se passait, quand il y avait de l'émotion, de la sensibilité, une vraie parole, et que du coup l'intime était lié au politique, quoi, peut-être. Ouais. Putain.
Vous s'il te plaît, parlez-moi. Si tu peux nous envoyer la piste 2 pour amener nos auditeurs avec nous dans cette.
C'est impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir. Être à la hauteur de celle-ci et porter durant les 5 années qui viennent l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez.
Tu n'es pas inquiet par les événements conjoncturels, la situation géopolitique ?
Je ne te dirai qu'un mot. Attention, attention. Remontez des abysses, je remonte. Faites un champ large en surface.
T'as maigri.
Ouais.
Allez voter.
Je n'irai pas, je suis anarchiste.
Voilà.
Une page des Requiem.
Fallait oser, hein.
C'est la novlangue, c'est le. Il n'y a pas de solution.
Bon. Tu dois les diffuser. C'est la loi sur la presse de la libération.
Donc ça c'est obligé de diffuser.
Et j'en ai pas vendu, j'ai reçu aujourd'hui, je le renvoie. Je le renvoie. Tu vois, je mets présidentiel Macron, j'en reçois un, je les ai renvoyés.
Voilà,
je ne veux pas les vendre.
Il y avait deux gars qui parlaient à côté qui étaient pour Macron, qui allaient remonter la France. Ça allait être extraordinaire.
Il a surtout remonté son compte en banque.
Mais c'est arrivé, je suis de droite, j'ai voté Fillon.
Ouais, ben là, on a eu la gauche, la Québec.
Les deux.
Tu ne prends pas cette truc-là au sérieux.
C'est le dimanche, samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi.
Le lundi.
Non, mais c'est vrai, c'est carrément.
Votez Patricio.
Français,
Non.
Ni fachos, ni financiers, ni l'un, ni l'autre.
Il est en train de vous mentir.
C'est un président qui n'est pas.
Attendez, il faut les femmes, il faut des faux trente ans en perpétuité. Il ne faut pas les faire.
Tu te focalises pas là-dessus.
Moi, je me mets en valeur, moi.
Oui. Les temps sont toujours difficiles et seront toujours difficiles. Mais voilà, l'inquiétude. Dans l'inquiétude, on attend toujours une future catastrophe. L'être humain est mauvais, c'est ce qu'il dit, Patrice. C'est pas de lui, c'est de Voltaire. Il nous le rappelle bien. L'être humain est mauvais de nature, même s'il fait des choses sublimes.
Parfois.
Ouais.
Dit.
Dans les premières séquences du film, Pauline, vous avez fait le choix au montage de garder un texte fondateur de Louise Michel. Et ce texte date de 1888, ça fait quand même presque deux siècles. Et il dit, et il rappelle, elle avait de l'avance, Louise. T'aimerais bien nous lire un petit passage. Si
c'est moi qui lis ?
Oui.
C'est toi qui lis les passages surlignés ? Personne ne peut rien à dénouer la situation présente. Personne met tout, c'est la fin. Les urnes ont assez vomi de misère et de honte. Au vent, les urnes, place à la sociale. Il faut bien que la vérité monte des bouges, puisque d'en haut ne viennent que des mensonges. Il faut bien que les déshérités, les hors-la-loi, de la force, cherchent le droit. Tu m'arrêtes, hein ? Je continue. Ce n'est pas nous qui faisons ce nouvel ordre de choses, c'est l'heure. Les circonstances s'entassent, la lutte du désespoir, sans peur et sans merci, est maintenant raisonnée. Ce n'est plus le troupeau humain que la force comme un belluaire peut abattre. C'est la jeune humanité se levant dans l'aube, toute prête à terrasser les monstres, armée par la science de moyens invincibles. Savoir, vouloir, oser se taire, disait l'Égypte des sphinx. Nous avons notre but, c'est la délivrance de tous, par tous. Nous le voulons et nous l'oserons. Quant à nous taire, c'est là où nous différons des sphinx, car le plus haut possible, nous le crions au privilège pour qu'ils comprennent l'iniquité de l'ordre des choses qui les protège, aux déshérités qu'ils se révoltent. N'est-ce pas un crime d'attendre pendant que des millions d'êtres sont écrasés sous la meule de misère comme un froment humain, comme les grappes oppressoires? C'est sous cette forme que le monde bourgeois mange son pain et boit son vin. Il commence ainsi sous les deux espèces.
Considérons les choses de sang-froid. Ceux qui ont vu des incendies de fermes savent que dans ces occasions, on a beau chasser les chevaux affolés, ils se plongent dans les flammes plutôt que de quitter l'écurie. L'écurie qui croule sur eux. Eh bien, une partie de la grande foule est faite ainsi. Heureusement, on ne peut pas vivre les jours d'autrefois et le vieux monde, pareil aux arbres, sans foi séculaire, va d'un instant à l'autre tomber en poussière. Le pouvoir est mort, c'était comme des scorpions tués lui-même. Le capital est une fiction puisque sans travail, il ne peut pas exister. Ce n'est pas souffrir pour la République qu'il faut, mais faire la République. Le malheureux père qui donne ses jours à son fils un verre d'acide sulfurique pour un verre de vin blanc n'était pas coupable. L'enfant non. L'enfant n'en périra pas moins. Il en est de même de ce régime de grand chemin qu'on présente comme la République. On croit trouver la vie, c'est la mort. Il n'existe aucune différence entre un empire et tout gouvernement régi par les mêmes moyens, si ce n'est le titre et la quantité de souverains. Notre République, des rois, a des rois par milliers. Ce qui pourrait s'appeler Republica, ce serait la chose de tous. L'humanité libre, sur le monde libre, le travail est mort. La misère immense pour les peuples, l'abondance et le bon plaisir pour les maîtres. Tels sont dans le monde entier les gouvernements. Vous avez beau appeler cela de tous les noms possibles, ils ont les mêmes codes. Ce sont donc des empires autrement habillés.
Voilà une déclaration qu'on va vous laisser méditer et avec laquelle on va vous accompagner d'une petite pause musicale. Et on se retrouve dans 5 minutes, c'est normal.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le bruit plaît.
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
la la. Tu voulais la 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 la.
Moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais.
Alors, on est de retour sur Enquête de cinéma. Excusez-nous, on a eu un petit blanc. On est en train de se fumer une petite cigarette et de faire une pause. Donc voilà, alors on est de retour avec Pauline Laplace. On est de retour avec Waib Mortada. On va continuer un peu sur le film. Mais on va pas continuer trop non plus pour vous laisser aussi une petite surprise de le découvrir. On vous dira à la fin de l'émission où on pense pouvoir voir le film. Mais on va réécouter un petit bout de son. Waib voulait vraiment qu'on reparte sur ce petit bout de son. Et il vous en dira des choses avec Pauline après.
Na 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 na. La semaine prochaine, je vais du matin.
Merci, merci Lolo d'avoir passé ce passage en fanfare. Ça résonne bien avec Zanzibar. Eli, c'est le joueur du septième jour, du télé 7 jours. Et ce qui est magnifique avec Pauline, c'est qu'elle a. Elle commence d'abord à avoir un œil très précis sur les mouvements du personnage. Elle met en décor, elle met en scène, en fait. C'est carrément une mise en, on assiste à une mise en scène dans une forme documentaire. C'est impressionnant de voir comment le documentaire finalement il crée de la fiction. Et on va en parler. On va en parler. Puisqu'on arrive un peu à tout et à rien, et le rien n'arrive jamais de rien, parce que après, avant le rien, il y a certainement des traces de l'après. La fin se prolonge vers certainement le tout début. On va revenir un petit peu avec Pauline, je pense, pour le temps qui nous reste, sur les débuts de cette expérience avec le 7e art. En parlant du septième jour, on atterrit dans un monde qui fait rêver. Le septième art, oui, c'est difficile, c'est terriblement compliqué. Il y en a qui rêvent à devenir star, d'autres qui rêvent à faire beaucoup d'argent. Mais finalement, le septième art, c'est quoi, hein? Finalement, comment on y rentre et comment on s'en sort après? Raconte-nous un peu, Pauline, où tu en es. Où tu en es aujourd'hui avec les rêves d'avant, du début, avec une détermination plus forte qu'avant? Où tu en es, Pauline?
J'ai une détermination plus forte qu'avant?
Oui.
Sur quoi? Sur le 7e art?
Oui.
Le cinéma? Moi, je pense que on ne sert pas à grand chose dans l'idée de délivrer un message, par exemple. Moi, là, je suis vraiment dans un truc où je me dis, j'ai envie de regarder des gens que j'aime et de les filmer. Et par ce geste-là, de leur dire que ils font partie de ce monde et qu'ils sont beaux. C'est tout, je crois.
Et au départ, c'était quand tu as commencé le cinéma, est-ce que là, c'est ce que tu nous dis où tu es maintenant? Et au départ, tu étais où?
Au tout départ, hein, quand j'étais enfant, j'avais une très bonne copine et elle voulait être actrice. Et les gens la prenaient dans ses bras, enfin dans leurs bras, parce qu'elle était très très jolie et très émotive. Et elle voulait être actrice. Et du coup, j'ai dit, bah, je te filmerai. Voilà. C'est ça le départ.
Ouais, tu nous en donnes un petit peu. Ça reste énigmatique. Alors le deuxième départ, peut-être. Ça, c'était le premier, le coup de cœur. C'est-à-dire que tu nous dis quelque chose d'assez précis dans ce que tu viens de dire au présent de ton désir ou ton geste de cinéma, que c'est tu filmer des gens que tu aimes, et par ce geste-là aussi les inscrire dans le monde et t'inscrire toi aussi dans le monde. Mais est-ce que ça a toujours été ça, la manière dont tu concevais le cinéma, ou est-ce que parce qu'en 10 ans, comme on disait, ça fait à peu près 10 ans que tu fais des films, et c'est quand même déjà une certaine durée où il peut y avoir des changements, des ruptures, des déplacements, des interrogations, et est-ce que t'es passé par différentes étapes, puisque dans ton on va y venir petit à petit, mais tu as fait différents films. C'est pas que le registre du documentaire n'est pas que ton seul registre. T'as aussi éprouvé le registre de la fiction. Mmh. Et vis-à-vis de tout ça.
Bah, je sais pas. Tu sais comment je suis venue au cinéma?
Non.
T'as l'air d'avoir une idée.
Non, c'est pour ça. Non, j'ai aucune idée, mais c'est pour ça que je m'interroge par rapport à ce que tu dis au présent. Ça m'interroge en me disant, est-ce que aussi c'était quelque chose qui était déjà là dès le départ, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses, ou est-ce que c'était encombré d'autres choses, comme disait Wahib, d'autres choses.
De quelles choses?
Ben de l'envie de faire des films pour
changer le monde.
Pour changer le monde, ou de l'envie de faire des grands films, ou de l'envie de faire des gros films, ou l'envie de comment.
Pas les gros films, non, pas les gros films. Moi, j'avais l'impression que on pouvait. Je sais pas trop. C'est difficile parce que, en fait, enfin, j'en sais rien, moi, pourquoi je suis venue à faire des films. C'est vachement difficile de dire. Là, je te raconte le premier souvenir de la première fois où je me suis dit, j'ai envie de faire des films. Je le raccroche à un truc très anecdotique et mais qui fait partie de ma vie. Et après, ça c'est. Je sais pas. Pourquoi tu fais des films, toi?
Bah, c'est pas moi qui suis à l'émission. Non, mais à un moment, tu fais une école de cinéma. Donc, c'est qu'il y a un désir. Il y a quand même des choses très concrètes qui se mettent en jeu.
La question, elle est d'ordre du présent et du futur. Et tant qu'on est dans le présent, on a des difficultés d'interroger le passé. Et donc,
il y a mille entrées dans le passé, c'est ça aussi.
Et c'est sûr, parce que déjà le présent en lui-même, il représente une charge énorme à analyser, à interpréter, à sa manière. On n'est jamais dans la tête de l'autre. Et donc, c'est conflictuel. Faire du documentaire, c'est vrai que c'est le cinéma par excellence. Parce que s'il n'y a pas de fiction sans le réel. Et moi, personnellement, je peux le dire là à cette antenne, faire des films de fiction, c'est vrai que c'est du cinéma pour fainéants. ou pour ceux qui ont un certain fainéantisme à revivre le réel et de l'interroger. C'est beaucoup plus simple hein, de faire de la fiction que de vivre le réel. Parce que les moments vécus, en fait, quand on voit Patrice dans son tout petit pays, que tu... c'est un magnifique titre déjà, Pauline, que vous avez trouvé pour ce...
Tu me voiles.
Hein? Je veux dire, certainement, non, mais parce que je parle de vous, parce que vous êtes une équipe, là. Oui. Tu n'es pas toute seule à faire ce film. Je parle au nom de toute l'équipe. Et donc, dans ce tout petit pays, il y a un personnage. Et ce personnage, il est vraiment énorme. Il est tellement, tellement vaste dans son expérience de vie en solitaire. Et c'est comme ça que ça, toute aventure commence. On ne peut pas imaginer une révolution demain en allant penser se mettre dans le tous ensemble. C'est la révolution, elle est d'abord individuelle. Et c'est pour ça que la grandeur de ton personnage fait que ce solitaire, ce bonhomme solitaire, c'est sûr que moi, quand j'ai vu cette affiche qui est collée à son paravent quand il ferme boutique à midi et qu'il donne rendez-vous à ses clients à 16h, je me suis retrouvé dans les pays du sud, par exemple dans les Ramblas à Barcelone, où c'est très sacré l'heure de la sieste. Et quand Patricio donc il va aller faire ses heures de prière en dormant, et je pense que c'est là où il recycle un petit peu ça, il rafraîchit, c'est comme un ordinateur rafraîchit un petit peu en le temps d'extinction et de rallumage, et il rafraîchit un petit peu sa mémoire vive. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin justement de toute cette mémoire vive pour subir le réel qu'il subit. Il subit quotidiennement, il subit chaque instant et il le vit intensément. Et j'ai remarqué que dans la manière comment il est composé le film, qui m'a beaucoup touché à certains endroits et à certains autres, il m'a fait beaucoup rire parce que la réalité finalement, elle fait rire. Le drame, il fait rire. Et c'est ça ce qui est magnifique, parce que finalement, c'est qu'un drame à perpétuel. Voilà. Hier, les guerres, ils étaient... il fallait voir des soldats et des chars qui traversent les artères de la ville pour se dire « Ouais, il y a la guerre !» Non, aujourd'hui, la guerre est devenue quasiment permanente. On a l'impression de vivre une guerre permanente. Donc du coup, quand on manque de bonheur, et quand on est à côté de ce personnage qui nous livre des petits secrets de rien du tout, presque on a l'impression de vivre un petit bonheur dans cette guerre permanente, dans la catastrophe. Il y a quelque chose qui nous éclaire.
Ah, c'est marrant. Donc, ça me fait penser au passage avec Adam, ça. Justement. Peut-être c'est ça qu'il faut écouter, non ? Peut-être. Je sais pas.
Il s'appelle comme...
Non, ah oui. Tu voulais parler, oui, ben encore. Tu voulais dire autre chose.
Non, mais bon, voilà, on questionnait, en fait. La question partait de Lolo, et elle partait sur qu'est-ce qui t'a fait sortir de ces expériences cinématographiques de fiction qui, à un certain moment, devenait un peu trop artificiel pour toucher justement la réalité d'un endroit.
Façon, mais moi, c'est mon premier film en vrai. Tous les autres films que vous avez vus, c'est des films que j'ai fait dans le cadre de mes études, qui étaient très cadrés. Il fallait faire un documentaire en 3 semaines avec une équipe de tournage. J'avais pas le choix du dispositif, j'avais pas le choix de comment je faisais des films. Donc à l'intérieur de ça, j'essayais de choper des trucs, mais j'y arrivais pas. Donc ça, c'est en vrai, là, c'est ça mon premier film. C'est pas les... Avant, c'est des essais, des exercices, des brouillons, des je sais pas quoi. Et après, là, c'est la première fois que j'ai décidé d'aller là, comme j'avais envie d'y aller et tout ça. Mais après, moi, je mettrais pas aussi, aussi fort la... La distinction entre fiction et documentaire, je sais pas ce que t'as dit au début, il y a un truc qui m'a fait tiquer un peu. T'as dit que...
Ah la oui, fiction, c'est un métier pour les fainéants.
Fainéants, bah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a le docu aussi, quoi, tu vois, t'as des gens qui vont là, ils filment tout.
Alors j'appellerais ça du reportage, c'est pas du documentaire.
C'est pas que le oui, reportage,
parce
mais
que ça paye bien à la
ça
télévision.
Ça paye bien, ouais. D'accord, mais c'est... non, mais... Pff, franchement, il y a des gens qui font de la fiction, c'est pas des fainéants du tout, ils bossent comme des tarés, quoi, tu vois, et il y a des gens qui arrivent de chez eux à capter quelque chose du réel qui est ouf.
Mais je sais pas si c'est ton premier film, après, parce que j'ai vu d'autres films, après, peut-être que c'est ton premier film dans une configuration autre.
C'est le premier film où j'ai tout choisi.
Voilà, mais est-ce que ça, pour autant, c'est ton premier film? C'est ton premier film où tu choisis tout, mais c'est, pour moi, en tout cas, c'est pas ton premier film. C'est... T'as fait d'autres films avant?
Oui, j'ai filmé avant.
Non, t'as fait d'autres films. Pourquoi? C'est parce qu'on choisit tout que c'est un premier film. T'as fait d'autres films où t'étais dans des cadres, mais ça reste des films.
Oui, oui, carrément.
Tu vois,
oui.
C'est après la question de premier ou deuxième. Je pense qu'on fait un film, c'est un film qui soit fait dans tel cadre ou dans tel cadre.
Bah, la première fois que tu choisis vraiment ton dispositif du début, bon, c'est un débat à la con, mais...
Bah en tout cas, tu nous as envoyé là pour cette émission, on a vu deux autres films.
Parlons de la règle et le jeu. Voilà, ton premier film.
Le jeu et la règle.
Et nous, on s'est pas posé cette question de savoir. On s'est dit, bah tiens, elle nous a donné trois films. On s'est dit, c'était trois films. On n'a pas raisonné en se disant premier ou deuxième. En tout cas, on n'était pas à cet endroit-là, quoi. Mais oui, donc il y a un film qui s'appelle La règle du.
Et le jeu.
Le jeu et la règle.
Voilà. Avant le jeu, il précède la règle. Ou c'est la règle qui précède le jeu.
Je vous écoute.
C'est ton premier film. Alors, il semble que tu nous as dit.
Alors, si on pas,
tu nous as dit que tu étais très déçu de cette expérience. Mais moi, quand je l'ai vu, Pauline.
Non, je ne suis pas déçu de cette expérience. Enfin,
alors, raconte.
Non.
Moi, je l'ai vu. Je fais une intro pour les auditeurs qui n'ont peut-être. Qui auront peut-être.
Ils ne comprennent plus rien, mais c'est normal.
Peut-être.
Mais s'ils sont avec nous, c'est super.
Bon, là, ça parle de migrants afghans qui arrivent. Je ne connais pas bien cette place, mais il me semble que c'est la place. On est sous les ponts du métro de Clichy, la place Clichy.
De Jaurès.
Jaurès ? La place Jaurès à Paris. Des Afghans s'installent. Et. Donc avec leur sac de couchage, etc. Mais les autorités, elles les obligent à déguerpir. Et à maintes reprises, ils reviennent. Ils insistent et il n'y a pas d'autre endroit où ils peuvent se regrouper et faire communauté. Et au bout de compte, il n'y a pas moyen de s'installer durablement sur la place, sous ces ponts-là. Il y a un terrain de jeu.
Volet.
De
basket.
Ils l'ont détourné grâce au centre social du coin qui n'exploitait plus ce terrain. Ils ont eu l'idée d'aller s'adresser au centre social, je pense que c'est ça l'histoire. Et ils ont eu quelques aides, ils ont eu un ballon de volley et un filet.
Mais là, tu vois, pour rajouter quand même des éléments avant que tu t'ailles. Dans le centre social. Oui, en plus, centre social, je ne sais pas où. Mais juste que moi, ce que je trouve qui est intéressant dans ce film, et je trouvais que c'était assez culotté, c'est le fait que tu viennes et tu. Bon, moi, c'est ce que je me raconte en voyant le film, c'est que tu viens et on sent que tu viens simplement vouloir les filmer. Voilà. Et en fait, rapidement, il y a eu une sorte d'interaction avec une sorte de résistance de leur part où eux, ils t'évoquent. Que grosso modo, ils n'ont pas envie d'être filmés à cet endroit-là où ils sont où ils sont en train de camper.
En quelle date on est, Pauline?
2012.
2011. Voilà.
2011.
2015. Et donc c'est ça, si je me trompe pas, Popo, ils t'évoquent, ils te disent non, on veut pas être filmé comme ça.
Oui. Voilà, ils disent on veut pas être filmé devant les tentes, c'est la honte.
Voilà, c'est
si
la honte.
Si quelqu'un nous voit comme ça, c'est pas comme ça qu'on veut être filmé.
Voilà, et moi ce que je trouve qui est intéressant, c'est déjà que premièrement tu nous donnes à voir ça, le fait qu'il y a cet obstacle, et que c'est super intéressant parce que tu leur proposes, ou je sais pas, tu vas peut-être nous en dire plus, moi ce que je vois c'est que tu leur proposes de les filmer en train de faire du volley, en train de faire du volleyball.
Avant. Que là, Avant de faire du volley, oui.
Bah, avant. Oui, en tout cas.
Avant le projet, oui.
Voilà, avant le projet, mais en tout cas, on suit le projet de se mettre à jouer
il y a cette
au
question.
Volleyball.
Il y a cette question.
Et
il y a.
Et moi, ce que je trouve super dans le film, après on rentrera dans les détails, c'est que là, il y a toute une aventure qui commence et qui est magnifique quand ils se mettent à jouer au volleyball. Et il y a vraiment quelque chose où ils prennent à corps cette pratique et presque, tu as l'impression qu'ils prennent le film en main.
Ouais,
et
que
là, il y a tout quelque chose qui se dévoile d'une joie, d'une façon d'habiter, d'une façon de faire présence, et la façon de parler du sport, la façon de parler de qui joue pas, et t'as tout un, et là on part la deuxième partie du film, on part complètement ailleurs quoi. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est que à partir du moment où se met en jeu cette question du volley, est-ce que nous on ressent, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as vécu, que, en tout cas moi je ressens que ça t'échappe.
Oui.
Et est-ce que c'est toi aussi qu'à ce moment-là il y a eu une sorte de bascule
Mais c'est ce truc de rencontrer des gens et de dire ben là pour le coup c'est pas des gens que j'ai rencontrés beaucoup avant le film parce que j'ai été rencontré avec la caméra. Donc c'est différent que quand on filme des gens qu'on connaît déjà d'avant. Mais du coup ben ouais, eux, ils voulaient pas être filmés devant leur tente. C'était la honte. Et je comprends. Et du coup, il se trouve que dans les terrains de basket à côté, parce qu'il y a plein de terrains de basket comme ça sous le métro, et ben, il y avait des gens qui jouaient au basket. Donc moi, j'aurais juste proposé ça, quoi, de dire, ben, si vous voulez pas être filmés devant les tentes, on va vous filmer comme les autres. Et ils voulaient être filmés pas devant les tentes, mais être filmés. Du coup, j'ai dit, ben, on joue au basket. Donc, eux, ils se trouvent qu'ils faisaient du volley. Donc, ils m'ont dit, on fait du volley. Et puis, voilà. Et puis, après, je les suis, quoi.
Mmh.
Et après, ça donne ce qui se passe, quoi, avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont monté leur équipe de volley. C'est pas un centre social. Hein. C'est pas... C'est eux hein,
qui ont acheté le ballon,
qui ont acheté le filet, qui se sont organisés pour faire leur équipe de volley quoi.
Et
de retrouver. Enfin après en tout cas il y avait un espèce de truc comme ça où là pour le coup vraiment là je suivais un truc en train de se passer où il y avait un enjeu dans ce volley qui m'échappait complètement. Ça c'est clair.
Ouais,
c'était
c'est
l'enjeu
ça.
D'être comme tout le monde, d'être fort au volley, donc ils excluaient tout ce qui était mauvais.
Une micro-société qui se forme, on a
l'impression.
Qui se reforme en tout cas.
Qui se reforme et qui ressemble à celle qui les exclut aussi.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et c'est les meilleurs qui jouent.
Ouais, puis il y a qui gagne, qui perd.
Qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd. Il fallait pas qu'on filme dans les moments où ça jouait mal. Il y a eu un arbitre parce que ça partait à la baston. C'est tout un truc, bon ben voilà quoi, c'est...
Ouais, mais à la fois, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quelque chose de très beau qui se passe entre eux, même tout ce que tu dis, ok, ils reproduisent un peu des choses, mais en tout cas, c'est pas ça, moi, ce que j'ai perçu. Moi, j'ai perçu de la joie. Même, il y a une sorte...
Il y avait aussi vachement ça, c'est-à-dire que ils étaient dans leur camp et ils se faisaient chier, et puis là, du coup, le film et le volley, c'était une activité, quoi. Et
pas sans risque, d'ailleurs. Parce qu'il y en a un qui, quand ça bastonne grave. Et il faut rappeler que là, il n'y a pas que des Afghans. Il y a Afghans, il y a Kurdes.
Non, il n'y a que des Afghans.
Moi, il m'a semblé. Bon, moi, j'ai peut-être fait ma propre anthropologie.
Non, il n'y a que des. Du groupe. Que des Afghans.
Voilà. Mais il semble qu'il y a des tensions quand même.
Ouais, il y a des tensions de vivre à côté les uns des autres dans ce camp, quoi. Mais il n'y avait vraiment que des Afghans. Enfin, c'était mort pour les autres, quoi. C'était hyper...
Oui, c'est
vraiment communautaire d'Afghans, quoi. Mais après, à l'intérieur de ça, il y avait un truc de hiérarchie, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais de... Mais c'est dans... c'était que des Afghans.
Au départ,
dans ce truc-là.
À la première scène du film où tu viens en découverte, Pauline, il y a une question qui t'est posée, elle est fondamentale.
Qu'est-ce que t'as demandé?
Le chef de groupe, il te pose la question à savoir What do you need for us?
Qu'est-ce que tu nous veux, ouais.
Est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire qu'est-ce que tu leur voulais?
Je pense que j'ai retourné la question à ce moment-là et que ça, peut-être que c'est... C'est dans tous les films où j'ai envie de faire ça. C'est qu'il me dit qu'est-ce que t'attends de nous, et moi je dis qu'est-ce que t'attends de moi. Et on va faire quelque chose ensemble. C'est pas que dans un sens.
C'est une rencontre.
Ben ouais.
Mais une rencontre, ça se passe à deux.
Voilà.
Voilà. Et donc c'est des films de rencontre que tu as fait, celui-là et celui avec Patricio.
Ben ouais.
Finalement.
Des rencontres et des lieux. Et des lieux stratégiques.
Ouais, et des petits endroits. Des rencontres dans des petits endroits. Parce qu'on se rencontre mieux quand il y a des petits endroits.
Comme à la radio.
Comme à la radio, qui est un petit endroit. Donc voilà,
on se réentend parler.
On se réentend parler. Oui, Pauline était déstabilisée d'avoir le retour sur ses oreilles. Donc voilà, elle a découvert cette sensation d'être dans une bulle. Quand on est à la radio, donc on est en train d'arriver à la fin de l'émission. Ton film, où est-ce qu'on va pouvoir le voir? Il va peut-être être diffusé...
Nulle part.
Nulle part, voilà. C'est un petit endroit qui est nulle part. Elle dit ça parce que vous connaissez un peu la dureté de faire exister des films comme ça dans ce monde dur qu'est le cinéma indépendant. C'est-à-dire qu'il y a plein de festivals, mais c'est tous les mêmes films. C'est très dur de faire exister des films qui sont un peu fragiles et beaux dans leur fragilité. Hein. Maintenant, il faut que ce soit des films assez parfaits. Mais il va exister. Je pense qu'il sera projeté en septembre ou en octobre dans le cadre d'une programmation de numéro zéro qui va inviter l'argent.
Ouais,
et ça devrait se passer, on ne sait pas encore, en septembre, octobre. Et puis, voilà, si vous avez envie de le voir, vous pouvez... écrire sur dérive.tv à Enquête de cinéma ou à écrire à Pauline Laplace qui, avec plaisir, vous le joindra. Et puis on espère... Tu es aussi sur un nouveau film, d'ailleurs. C'est ça, après un film où il y avait beaucoup d'hommes.
Oui, c'est que des femmes.
Maintenant, c'est un film où il n'y a que des femmes. Tu es tout au début.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire en une phrase?
Ça se radicalise, là.
En une seule phrase, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film à venir? Tu filmes toujours des gens que tu aimes?
Oui, c'est vrai.
Mais là, tu aimes depuis beaucoup. Encore plus, plus.
Ah oui, je les aime depuis longtemps, oui.
Voilà.
Mes amis.
C'est des amis.
À nos amis.
Celui qui aime bien châtie bien, attention.
À nos amis.
Champ large.
Et là, tu es en pareil, tu vas faire un peu la même forme, c'est-à-dire tu vas tourner un peu pour un peu ensuite te poser et écrire.
Ouais, voilà.
Ouais, tu gardes un peu cette façon de travailler.
Ouais. D'abord, on se rencontre, on filme, et puis après, on écrit.
Et après, on refilme. Et après, on refilme. Et puis, tu vas essayer aussi de trouver, pareil, des chemins de production.
Oui.
Ouais.
Ouais, on verra. Si je peux payer ceux qui font après toute la technique, savoir, musique.
Toute la technique, la musique.
Le son.
Voilà.
Toutes les belles choses qui font qu'un film, il se finit bien.
Merci de nous avoir partagé ces moments. C'est très... Ça fait vibrer.
Ah bon?
Non, mais sincèrement, il faut le voir et j'espère que vous le verrez.
On
sera aussi solidaire. Et encore solidaire.
Voilà.
Pour le faire partager, pour voir ce film, pour voir tes films. Pas contre nous, mais à les faire partager surtout.
Voilà. on espère. Et puis ben voilà, on arrive à la fin de cette enquête de cinéma. Merci Pauline de
merci à tous les deux
ta présence.
C'est très étrange comme expérience, mais c'est... j'aime bien vous voir là à travers les vitres et
expérience étrange. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, on espère que vous allez toutes et tous bien, que vous allez continuer à aller au Vidéodrome, parce qu'à Marseille, on a la chance d'avoir un cinéma assez unique, le Vidéodrome 2. Il y a des très belles programmations cette semaine. Mardi 4 février, mercredi 5 février, il y a le cinéma de Lionel Soukas, cinéma expérimental, qui est vraiment à voir. Après, il y a des films de Duston. Et puis, le week-end prochain, il y a une programmation numéro 0 qui accueille Jérémy Gravaya. Et il y a plein d'autres choses qui se passent à Marseille. Et on va vous laisser avec une petite musique, voilà, histoire d'essayer de pas trop vieillir. Ça peut être bien, mais c'est pas si évident. Ou de bien vieillir. Voilà. Merci Wahib.
Merci Lolo.
Tes lectures.
Comme toujours,
et on retrouve tout ça sur le site dérive.tv. Vous allez sur les onglets audio dérive.tv, il y a les enquêtes de cinéma. Bonsoir.